essaye d'être adulte. Sois un disciple adulte. Forge ton mental. Et automatiquement, donne un nouveau visage à tout ce que tu lis et à toutes les prières que tu formules. Et quand tu dis « Notre Père qui est aux cieux, je t'en prie, cesse de supplier un Dieu qui est à l'extérieur de toi, comme si en secouant le prunier, des fruits pourraient tomber. » Et tu sais très bien que cela ne marche pas, parce que mille fois tu as secoué le pommier et aucun fruit n'est tombé, si bien que tu te demandes si Dieu a des oreilles pour t'entendre. Tu te demandes si les anges font bien leur travail de facteur. Tu te demandes si tu as une quelconque importance pour Dieu sur la terre. Et finalement, tu doutes de lui. Ou bien tu te dis, mais c'est parce que je suis trop petit, donc on ne peut pas m'entendre. Et tu te recroquevilles et tu deviens malheureux parce que tu te dis, notre Père qui est aux cieux, il est peut-être aux cieux, mais il n'est pas mon Père, car il ne m'a pas reconnu pour fils. Et je suis donc orphelin alors que j'aime mon Père. Pourquoi est-ce qu'il ne me reconnaît pas? C'est ce que tu peux dire et penser. Si tu imagines que prier, c'est secouer le pommier pour qu'une pomme tombe. Donc, pense différemment, prie différemment. Et quand tu dis « Notre Père qui est aux cieux », pense au même Dieu que celui que tu aimes à l'extérieur de toi, mais place-le à l'intérieur de toi. Et en le plaçant à l'intérieur de toi, place en même temps tout l'univers à l'intérieur de toi. Comme si d'un seul coup tu étais le seuil par lequel le monde allait passer et avoir lieu. Tant que tu ne te sens pas comme étant le seul par lequel le monde va avoir lieu, tu ne peux pas connaître le Père. C'est impossible, car tu ne te tiens pas au bon endroit. L'univers, c'est le rêve de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand je dis le rêve de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu fait des bêtises et qu'il se met à rêver quand il ne sait pas quoi faire. Le rêve de Dieu, c'est la partie dense de sa pensée. Ce qui fait que quand les enfants baignent dans ce rêve, ils croient que c'est la vérité. Parce qu'eux-mêmes aussi sont plongés dans le rêve, un rêve qui leur est propre. Donc, pour retrouver le sens de la réalité, il faut que tu te places à l'endroit où Dieu est la pensée, où Dieu est l'existence, où Dieu est l'absolu. Et pour te trouver à cet endroit, eh bien, il faut que tu te places dans ton propre absolu et dans ta propre existence. Alors, comment vas-tu prier demain? Notre Père qui est aux cieux, que la divinité est en toi, que tu l'abrites, exactement comme un temple serait recroquevillé autour de la flamme. Tu n'arrives pas à comprendre que tu es Dieu. Tu n'arrives pas à intuitionner que tu es Dieu. Mais tu arrives quand même à imaginer que cette carcasse pourrait être vide et qu'elle ne serait que la coque de Dieu. Un Dieu que tu ne connais pas encore, peut-être, mais tu arrives assez à imaginer la chose, donc pense la chose comme je viens de te le dire. Notre Père qui est aux cieux, et mets les cieux à l'intérieur de toi, Dieu à l'intérieur de toi, comme étant donc ton propre principe cosmique, comme si toi tu étais un univers et un arbre de vie tout entier. Et continue la prière, chaque fois en pensant que la prière vient de l'intérieur et qu'elle est faite pour aller aussi à l'intérieur. Et dans ce va-et-vient, tu verras qu'en priant de la sorte, tu ne pourras qu'apprendre à te connaître et tu te découvriras. Alors que si tu mets Dieu en haut d'une hiérarchie, dehors, et que tu essayes de prier pour obtenir sa vibration, son rayonnement, sa bénédiction. Tu t'apercevras que tu ne connaîtras pas Dieu. Tu n'arriveras pas à l'instant où il te semblera perceptible par l'intérieur. Si tu te places dehors, tu resteras dehors. Rentre dans le temple et tu y verras la flamme. Mais il n'y a rien de pire pour l'esprit que de se trouver dehors. Parce qu'il se trouve toutes les raisons de continuer à être dehors. Et il me dit, mais Dieu, c'est celui qui peut-être est à l'intérieur de moi, parce que c'est comme cela que la loi cosmique a fabriqué l'homme, mais il est aussi dans une autre dimension. Et c'est un prétexte du mental ignorant pour continuer à se projeter dehors. Mais comme je te l'ai dit mille fois, ton mental n'est pas l'intelligence. Il ne peut qu'avoir ou tirer des conclusions qu'avec ce que tu as mis à l'intérieur de la mémoire. Ce qui fait que si tu as glissé dans ta mémoire des concepts anciens, des concepts erronés, des concepts enfantins, tu n'arriveras pas à concevoir la voie et à concevoir Dieu. C'est pour cela qu'il faut que tu acceptes que je brise tous tes concepts, même quand je te dis Dieu n'existe pas. Ne fais pas la moue, ne fais pas la triste mine, ne te dis pas c'est terminé, j'ai compris, la foi ne sert plus à rien, même lorsque je guéris, alors c'est même plus la peine de prier, Dieu n'est pas là de toute manière. Ne commence pas à tirer des conclusions, garde l'esprit calme et reçois tout simplement l'idée nouvelle. Dieu n'existe pas, comprends-le. Et puisque je te dis que Dieu n'existe pas, rends-toi compte absolument à ce moment-là que toi, tu existes. Quand tu cesseras d'adorer des images et des dieux à l'extérieur, tu finiras par exister véritablement toi-même. Tant que tu adores des images, des dieux ou des idoles à l'extérieur, tu projettes ton esprit à l'extérieur. Et dans cet espace qui va de toi à l'objet idéalisé, il se passe tout un rêve dans lequel tu te perds, tu te noies, dans lequel tu peux être torturé même. C'est un rêve, comprends-le. Alors quand tu me dis que pourtant bien des évolutions ont été acquises, en étant moine et en priant au pied de la croix, eh bien moi je te dis non, tu peux me l'affirmer. Tu peux même me contredire et pourtant je te dis non. Aucune évolution ne peut être acquise si tu es au pied de la croix en train de prier. La croix, ce n'est rien. C'est un bout de bois. Ce n'est rien du tout, comprends-le. Ce n'est rien. Et pourquoi ce n'est rien? Tout simplement parce que Jésus ou le Christ n'est plus sur la croix. Si tu te trouvais il y a 2000 ans à l'endroit où Jésus était sur la croix, alors tu pourrais prier au pied de la croix, car là se trouvait la lumière. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Alors que vas-tu prier sur cette croix vide, si ce n'est ta propre ignorance? Alors tu pourrais me rétorquer que pourtant, quand tu es dans une église et au pied d'une croix, il se passe quelque chose. Mais bien sûr, il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas à cause de la croix, et ce n'est pas parce que Christ apparaît à ce moment-là. Sais-tu pourquoi il se passe quelque chose? Tout simplement parce qu'en voyant la croix, tu te rappelles que pour toi il s'agit d'être humble. Tu te rappelles que pour toi il s'agit de laisser tomber ta personnalité afin de prier ton Dieu. En fait, la croix n'est là que dans un but psychologique. Logique, rien de plus. C'est l'impact, le symbole qui sera à même de te rappeler à l'humilité et à l'action de fléchir le genou, à l'action de te vider pour pouvoir commencer à sentir la spiritualité qui est en toi. Donc, que te dit la croix? Elle te dit, fais le vide. Et grâce à ce vide, ce qui est en toi va se réveiller. Mais la croix ne peut rien pour exaucer ta prière ou pour t'induire dans un état de prière, ou pour servir d'intermédiaire entre le Christ et toi qui prie le Christ. Et quand tu fais la chose de la sorte, alors tu n'es pas plus intelligent qu'un homme d'une tribu lointaine qui en est encore à pratiquer le vaudou. C'est la même chose, exactement la même chose. C'est un rite primitif. Bien sûr, cela peut scandaliser l'occidental quand je le compare à des rites primitifs. Quand je le compare à des gens pratiquant le vaudou, parce qu'on pourrait me dire, mais quand même, il ne faut pas exagérer, il y a un monde de différence entre la messe et le vaudou. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ton esprit, quand il pratique la prière ou la messe de cette façon-là primitive, ton esprit, lui, n'est pas différent par rapport à un autre homme qui pratique le vaudou. C'est la même adoration, la même croyance dans le fait qu'un symbole peut être un intermédiaire avec le Christ. C'est la même superstition. Alors vois-tu, pour nous, les religions ne sont que des superstitions aménagées suffisamment bien pour que les hommes commencent à croire en Dieu et s'améliorent, reçoivent un baptême, une énergie. Mais ce n'est que de la superstition, et c'est tout ce que j'en fais. Eh bien, je donne des grands coups de pied dedans comme si ce n'était que des tas d'immondices et des poubelles nauséabondes, infectes. Et toi, tu vas manger à ces poubelles. Et ensuite, tu me dis, mais la nourriture qu'il y a dans ces poubelles ne me convient pas. Mais bien sûr, ce sont des poubelles. Bien sûr que je le sais, le catholicisme, ce n'est pas la joie, comme tu dis toi-même. Tu n'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui, l'énergie n'existe plus dans l'Église. Bien sûr, tu peux me dire aussi que la franc-maçonnerie, ça ne vaut plus rien. Qu'on n'y parle plus que de politique, ou que de thé, de broderie. Bien sûr, mais tu ne me l'apprends pas, je le sais, mais ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui ai fait cette chose, c'est toi, parce que tu es superstitieux. Parce que lorsque je t'ai donné l'épée de la maçonnerie ou lorsque je t'ai donné l'hostie de la messe, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as dit, il y a un Dieu, le Père, il y a un Messie, le Christ. Et le Christ est monté au ciel, mais de temps en temps il revient par l'hostie pour être mangé par tous les hommes, afin que les hommes évoluent. Et avec l'épée, tu as fait la même chose. Tu as dit, il y a le grand architecte de l'autre côté, mais avec le mot du pouvoir, il est là, il vient au moment où j'allume les cierges. On a mis de l'or entre tes mains, et tu en as fait de la fausse monnaie. Et non pas parce que l'or a menti, et qu'à ton contact, il est devenu impur, il est devenu de la fausse monnaie, mais tout simplement parce que toi, sur la pièce d'or, les 10 pièces d'or qui t'ont été données, tu as fait un moule de fer. Parce que l'or, ça ne te suffisait pas. Tu disais, oui, c'est de l'or, mais ça vaut quoi l'or, au fait? Oui, c'est de l'or, mais j'arrive pas bien à voir ce qui est marqué sur la pièce. Il y a trop de lumière, je n'arrive pas à voir quel visage est marqué sur la pièce. Parce que l'or ricochait tellement la lumière du soleil que tu finissais même par douter que tu tenais entre les mains de l'or. Tu voyais tout simplement un éblouissement. Alors tu t'es dit, pour que cet or me soit accessible, pour que je puisse le discerner, il faut que je le coule dans un autre métal que mes yeux peuvent contempler. Et tu as coulé les pièces d'or dans du fer. Mais voilà, le problème arrive. Le fer, ça rouille. Et lorsque la pièce est rouillée, tu regardes le bon Dieu et tu lui dis, « Regarde la pièce que tu m'as donnée, elle est toute rouillée, c'est de la fausse monnaie, c'est pas du jeu quand même. » Tu aurais pu me donner une autre monnaie, une énergie qui ne périt jamais, une église qui soit absolue, qui ne puisse jamais être corrompue, qui ne meurt jamais puisque le Christ est éternellement vivant. Pourquoi m'as-tu donné ces 10 sous qui rouillent ? Et que veux-tu que le maître te réponde ? Il t'a donné du bon argent qui ne rouille jamais. C'est à toi d'enlever le fer. C'est à toi de gratter ce que tu as rajouté autour de la pièce. Et à ce moment-là, tu t'apercevras que depuis toujours, tu avais entre les mains de l'or à l'état pur. Alors toutes les revendications que tu peux faire ne sont jamais justes. Parce que depuis le début, tout le monde, tous les frères, tous les maîtres, tout ce monde-là t'a donné de l'or pur. Mais chaque fois tu rajoutes quelque chose, si bien que lorsque l'on dit « Notre Père qui est aux cieux », il faut que tu mettes les cieux au-dessus de l'espace, le Père dans ses cieux, et toi l'homme en bas sur la terre. Et cette conception, c'est du fer. Ce fer est froid entre tes mains, et ta main transpire, elle crée de l'humidité, et plus tu vas tenir la pièce dans ta main humide, plus elle va rouiller. Et un jour, toi-même, tu me demanderas une nouvelle pièce. Mais moi, je ne te donne pas de nouvelle pièce. Il n'en est pas question. Depuis le début de l'univers, tu as l'argent qu'il te faut pour faire la route. Tu n'as pas besoin de me faire un nouvel emprunt. Il n'en est pas question. Tu es déjà riche. Il te suffit de gratter l'enveloppe. Et c'est ce que je te propose de faire quand je te dis « Allez, crois-moi une seconde. Fais-moi confiance. » Dieu n'existe pas. Mais sitôt que j'enlève cette pellicule en fer, tu crois que je déspiritualise l'univers. Tu crois que j'enlève Dieu du centre du monde. Tu crois que je ne crois pas en Dieu. Tu crois que je suis peut-être même un être des ténèbres. Ou en tout cas un être qui s'amuse avec une philosophie très bizarre, mais une philosophie qui n'est pas spirituelle. Dès que j'enlève le Dieu que tu mets en haut du sapin de Noël, pour toi c'est comme si les ténèbres d'un seul coup envahissaient la pièce. Et moi je te dis, Dieu n'existe pas. Et quand je le dis, non seulement j'enlève Dieu du haut du sapin de Noël, mais je jette aussi le sapin de Noël. Et ça tu ne peux pas le supporter, n'est-ce pas? Tu te dis, mais c'est un fou, laissez-moi sortir, qu'on ouvre les fenêtres. Tu te dis aussi que plus jamais une telle philosophie ne pourra t'intéresser. Mais si tu me laisses encore un instant, tu verras que, bien sûr, j'enlève l'étoile en haut du sapin. Bien sûr, je jette le sapin par la fenêtre. Mais à la place du sapin, je te pose toi. Je te place toi-même, et je te dis, sois le sapin, sois l'étoile. Arrête de projeter sur un dieu, arrête de projeter sur une étoile, arrête de projeter sur un sapin. Arrête de créer des divinités, des univers, des croyances, des religions, des baptêmes. Sois toi-même l'endroit du baptême. Sois cette étoile et tu verras que tu n'auras plus aucun problème pour évoluer. Bien sûr, les épreuves resteront là. Bien sûr, tu auras toujours ton alchimie à faire, c'est certain. Mais tu seras sur la vraie voie et non pas dans le rêve de l'évolution, pensant que tu accumules des énergies. Bien sûr, tu peux accumuler des énergies, mais comme ce sont les énergies du rêve, un beau matin, tu peux te réveiller comme étant le plus affreux des mages noirs de l'espace. Alors que si on regarde 10 incarnations en arrière, tu étais un adorable petit dévot à l'intérieur des églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, tu te réveilles et tu te dises, maintenant, je vais faire ma loi? Maintenant, je veux que telle énergie soit à moi, qu'elle m'obéisse et qu'elle structure tout mon univers, qu'elle me rapporte de l'argent, qu'elle me donne du charme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que tu as beaucoup aimé, mais pas le Dieu qu'il faut. Tu as beaucoup prié, mais pas le Dieu qu'il faut. Et l'énergie est venue, parce que même si c'est dans un rêve, l'énergie existe. Mais cette énergie n'était là que pour amplifier ton rêve, amplifier ton ego. Et d'un seul coup, le rêve, arrivant à son maximum, ne pouvait que t'entraîner dans le cauchemar. C'est certain. Le cauchemar. C'est bien beau de rêver pendant 10 ou 15 incarnations. C'est joli, c'est gentil, c'est agréable. Mais tu le sais bien que dans l'univers, tout est construit selon la loi du binaire. Toi, tu dis dualité. Et sitôt que tu es allé au bout du blanc, tu rencontres le noir. Donc, quand tu es allé au bout du rêve, tu rencontres le cauchemar. Et ensuite, tu viens me dire, mais pourquoi est-ce que ma vie est si triste? Mais pourquoi est-ce que Dieu a inventé une vie si lamentable? Pourquoi est-ce qu'il faut que je meure de faim? Que j'endure toutes sortes de tortures? C'est pour que tu sortes du cauchemar. Alors, comment cesser de rêver et comment cesser d'entretenir le cauchemar? Une bonne fois pour toutes, connais ta place. Ne prends plus des déviations, mets Dieu à l'intérieur de toi. Et si tu le mets à l'intérieur, tu verras que tu vas profondément te respecter toi-même. En te respectant toi-même, tu verras que tu auras plus d'amour pour les autres parce que tu vas les respecter aussi. Et en ayant ce respect, cet amour, tu verras que tu seras investi du sens du devoir. Ce qui fait que par là même, tu sauras ce que tu dois faire dans la société, comment tu dois le faire. Tu auras en même temps un sens inné donc de la justice. Bien sûr, pour obtenir toutes ces choses, tu peux me parler d'évolution, tu peux me dire, mais il n'y a que les initiés, bien sûr. Mais alors, moi, je te répondrai que pour nous, l'initié, ce n'est pas un homme avancé. C'est simplement quelqu'un qui a fini de rêver et qui a fini de faire des cauchemars. C'est seulement ça. Alors que tu imagines dans ton esprit qu'il y a la chaîne de l'évolution et que l'on rencontre la première initiation majeure à tel endroit, et puis que grâce à une telle autre énergie venue de Jupiter, on arrive à ouvrir le lobe gauche du chakra cardiaque, à un moment donné où la lune se lève et où le coq chante trois fois dans la basse-cour du voisin. Bien sûr, tu peux me dire toutes ces choses parce qu'on te les a données. Alors tu peux aussi me reprocher qu'on te les ait données de la sorte. Mais n'oublie pas que ce que l'on t'a donné, ce sont des pièces en or. Ce qui rouille, c'est ce que tu y rajoutes. C'est donc la façon selon laquelle tu comprends ce qui t'est donné. Ce qui fait que ton travail, ce n'est pas de t'instruire sur cette planète. Bien sûr, tu peux t'instruire. Il y a des choses formidables à connaître avec la tête, même si on reste un homme. Mais ne te trompe pas d'instruction. Un livre est là pour déclencher en toi des intuitions et non pas pour se loger en tant que donné dans ta mémoire. Lorsque donc tu t'attaches à étudier un livre, ne dévore pas le livre dans son entier. Ou du moins, dévore-le une fois si tu veux pouvoir parler avec le mental à d'autres frères, puisqu'il faut avoir une vie sociale comme tout le monde, quelque part. Mais reprends ce livre et chapitre par chapitre, essaye de basculer dans le cœur de la lettre et travaille avec l'intuition. Alors, comment vas-tu t'y prendre? Puisqu'il ne s'agit plus d'un travail mental, comment travailler intuitivement avec un chapitre, avec des mots qui semblent ne vouloir parler qu'au mental? Eh bien, il te faut faire le même travail qu'en philosophie. Pour ceux qui ont étudié la philosophie, ils me comprendront tout de suite. Vous avez une phrase, une expression. Vous devez trouver les structures de l'idée qu'exprime la phrase. Généralement, la structure la plus facile, c'est celle de trouver la thèse, l'antithèse, de faire la synthèse. Et cette synthèse, si elle est faite avec le cœur, c'est celle-là que nous nous appelons l'intuition. Et c'est celle-là qui est la véritable instruction. Donc, quand vous avez un chapitre, il vous faut étudier ce chapitre comme si vous faisiez une analyse de texte pour voir ce que cela révèle de caché. Et puis, lorsque vous commencez à intuitionner ce qui est caché et que vous captez la vibration, en fait, le petit éclair dans la pensée, alors il faut méditer sur la chose pour en faire un acquis et pour étendre la connaissance jusque dans le cœur de l'âme. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire ceci avec tous les livres, parce qu'il y a des livres à l'heure actuelle qui sont purement destinés au mental. Parce que tout simplement, des gens se trouvant dans le mental concret suffisamment fort, avec ce qu'il faut d'ancienneté de l'âme pour avoir des idées sur la spiritualité, ne sont capables que de faire des livres qui s'adressent au mental concret. Parce qu'eux-mêmes font passer leur propre spiritualité par le mental concret. Mais ils n'ont pas compris grand-chose, en fait. Ils ont peut-être compris comment être disciple, comment être généreux, comment prier, ce que sont les formes pensées, la force de la pensée, la force du cœur. Mais ils ne connaissent pas la vérité. Donc on ne peut faire ce travail-là qu'avec les textes sacrés. Alors vous allez me dire tout de suite, mais où sont les textes sacrés? Nous les voulons. Nous voulons faire cette alchimie. Eh bien, vous pouvez prendre les textes anciens que l'on appelle le livre de la Bible. Ce qui ne veut pas dire que toutes les phrases de la Bible révèlent quelque chose de caché. C'est le livre qui est le plus répandu, que vous pouvez trouver n'importe où. Et sachez trouver à l'intérieur les paragraphes qui parlent à l'esprit, comme par exemple les paraboles de Jésus. Et méditez ces petits chapitres pour déclencher votre intuition. Il y a d'autres textes sacrés, mais pour cela il faut aller à l'intérieur des écoles. Que ce soit la maçonnerie, la théosophie, ou que ce soit d'autres organisations que l'on peut trouver en Inde ou ailleurs, même chez les musulmans, parce qu'on ne pense pas suffisamment au monde musulman lorsque l'on parle de spiritualité. À cause de tout ce qui se passe aujourd'hui, on n'imagine même plus que la lumière ait pu un jour exister. Et pourtant, il existe encore un grand nombre d'initiés dans ce territoire. Mais l'initié connaît le plan. L'initié connaît le karma des races. Et quand l'initié qui appartient à une race voit sa race commencer à s'entretuer ou à dégénérer, l'initié se retire quelque temps. Vous pouvez m'objecter qu'il ferait mieux de rester au milieu de ses frères et commencer à les habituer à une autre philosophie, mais si vous aviez la vision de l'initié, vous verriez que si la race en est arrivée à ce point-là, où le seul recours karmique était de les faire s'entretuer, vous comprendriez bien qu'il est inutile de parler, parce qu'ils n'entendraient rien, et qu'il faut donc attendre que la vague de la surdité soit passée, pour que l'oreille de nouveau se redresse et soit capable d'entendre. Lorsque des événements négatifs arrivent, comme cela se passe au Moyen-Orient, chez les musulmans ou ailleurs, il faut comprendre que c'est là l'aboutissement d'un karma qui a été tiré en longueur et qui a essayé à maintes reprises de s'épuiser d'une autre manière. Autrement dit, les maîtres ne prévoient pas systématiquement la guerre, la révolution, la dictature et toutes sortes de maux pour épurer une race ou pour faire avancer des institutions. Mais par contre, ces choses en dernier lieu, sont comme consentis parce qu'il n'existe plus rien d'autre pour purifier la race ou pour l'intéresser à d'autres principes. Et on peut savoir l'instant exact où une race va déclencher une guerre ou une révolution ou une dictature dans son sein. Parce que longtemps avant le déclenchement de cette révolution ou cette dictature, etc., il y a des signes avant-coureurs, des signes qui sont là comme étant très prometteurs parce qu'ils essayent de modifier la situation. Mais il n'y a pas de réussite. C'est systématiquement l'échec. Soit parce que quelqu'un arrive avec un vice et entrave tout le plan, soit parce qu'un groupe d'hommes fait offense et ne veut pas accepter la nouvelle loi, ou tout simplement l'évolution, ce qui fait que cet homme ou ce groupe d'hommes crée ensuite un karma pour toute la race et pour toute la nation. Vous allez peut-être trouver cela injuste. C'est injuste. C'est profondément injuste. Mais on ne peut pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, les hommes sont incapables de se diriger eux-mêmes en une seule et même nation. Les hommes ont toujours besoin d'avoir un chef, d'avoir quelqu'un qui prévoit ceci, qui décide cela. Alors tant que vous vous remettez entre les mains d'un homme ou d'un groupe d'hommes, il va de soi que vous allez recevoir tout ce que ces hommes auront fait de bon comme de mauvais. Et c'est parce que vous avez encore besoin d'un président, que vous avez encore besoin d'un pape, que vous avez encore besoin d'un gourou, et que vous avez encore besoin d'un bon Dieu dans le fin fond du ciel. C'est la même chose. Mais le jour où chacun saura se diriger parce qu'il connaîtra la loi à l'intérieur de lui-même, il sera capable d'être amour, il sera capable de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas escroquer. À ce moment-là, le président n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte. Il n'y aura même plus besoin de police, encore moins besoin d'armée, encore moins besoin de prévoir des plans d'exploitation, des plans de développement industriel. Les hommes sauront ce qu'ils doivent faire pour leur bien commun. Et ils se mettront tous à cette tâche. Ils se diront, nous sommes incarnés. Pour vivre, nous avons besoin de manger, nous devons tous cultiver. Tandis que si aujourd'hui on essayait de libérer l'homme du joug de la politique et des prévisions de l'économie, eh bien on s'apercevrait que chacun serait très content de sombrer dans le loisir. Et il n'y aurait plus moyen de manger une carotte, il n'y aurait plus moyen d'acheter une marmite quelque part, tout simplement parce que celui qui la fabrique a décidé d'aller à la mer. Ou de ne plus se consacrer qu'aux femmes et aux plaisirs charnels. Tout ceci n'est donc pas possible, tout simplement parce que l'homme est encore dans la couveuse. Et c'est pour cela qu'il imagine que hors de la couveuse, existe un Père qui le couve bien avec toute sa chaleur, tout son amour, et qu'il fait pour son enfant de grands projets, qu'il prévoit pour son enfant qu'il sera roi du monde, et qu'à son tour cet enfant pourra imiter Dieu et faire comme Dieu. Si tu veux connaître la vérité, alors il faut que tu acceptes la douleur de sortir de la couveuse où les vapeurs entretiennent le rêve et parfois deviennent des odeurs de soufre et te font endurer le cauchemar. En somme, qu'est-ce que j'ai voulu te dire ce soir, considérant la question qui a été posée? Eh bien, ce soir, j'ai simplement voulu te montrer que la planète est un seul et même être, que l'humanité est un seul et même être. Et qu'il n'y a pas d'un côté la politique, l'économie, la religion et plus loin pour ceux qui sont plus avancés, la spiritualité à l'état pur. Il y a une même note qui est la vie. Et cette note, en descendant la gamme de son oscillation, va créer des expressions différentes. Cette note, c'est la note de ton esprit. Et quand tu te trouves sur terre, à l'état profane, tu organises la note de la vie de façon politique, de façon économique. Puis cette note se développe, et tout en étant encore intéressé par l'organisation de la vie, tu commences à développer ta politique, améliorer l'économie, jusqu'à ce qu'un jour, finalement, tu vois bien que il n'existe pas de politique et pas d'économie. Il y a tout simplement une capacité de travail à réunir, à mettre ensemble pour pouvoir faire de la vie quelque chose de confortable. Pensez à ce que serait la vie pour tous les hommes de la terre s'ils avaient le courage de travailler, chacun, un petit peu, et de quelque manière que ce soit. Pensez à toutes les tribus de certains pays qui restent dans des modes de vie très anciens et qui ne travaillent pas alors que la terre est là. Vous pouvez me dire, il y a la terre mais il n'y a pas la pluie. Et moi je te réponds, sais-tu pourquoi la pluie ne vient plus? Tout simplement parce que la terre n'est pas travaillée. Parce que l'homme se contente de tuer des animaux parce que c'est plus facile. Et le reste du temps, il va vers les femmes, ou il va dans la sorcellerie, ou il va tout simplement dans les beuveries. Donc, il faut que la terre lui manque. Et pour que la terre lui manque, il faut qu'elle devienne sèche, donc il ne pleut pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laver les mains, faire comme pense Pilate, et se dire, ceci est leur destin, je ne m'en occupe pas, ils l'ont mérité. Il faut apporter la pluie là où Dieu ne veut plus pleuvoir. Mais en même temps que vous devez apporter la pluie du ciel, il faut aussi apporter la pluie de l'esprit. Donc il faut les amener petit à petit à se responsabiliser de nouveau, à être de nouveau une race forte, une race conquérante, une race d'initiés. Il faut donc faire remonter la vibration. Et cela se peut en éduquant davantage l'esprit, plus qu'en cultivant le sol. Mais bien sûr, il faut aussi donner à manger. Alors il faudra cultiver le sol. Mais en même temps, surtout, cultiver l'esprit. La philosophie est le plus sûr moyen, en fait, d'avoir du pain chaque jour. Lorsque chaque jour votre esprit reçoit le pain de vie, vous pouvez être certain que votre estomac recevra aussi son pain de vie. Mais s'il y a une fenêtre qui est fermée dans votre esprit et que le pain ne peut pas entrer, alors l'estomac aussi sera affamé. De la même manière. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout est la même expression, mais à des degrés différents. Et lorsque l'on voit la politique tenter de changer à l'Est, il faut comprendre que ce n'est pas la politique qui change, la politique restera absolument la même. Mais l'homme sera différent. Donc l'idéologie profonde sera différente. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'Est devienne différent. L'Est restera toujours tel qu'il est. L'Est sera toujours selon sa différence. Mais ce sera une meilleure différence. Une différence plus juste, plus souple, plus ouverte en même temps aux choses de l'esprit, donc aux énergies, à la culture et à l'expression. Tandis qu'à l'Ouest, il ne faut pas non plus conclure que les choses vont se transformer et que l'Ouest ne sera plus l'Ouest. L'Ouest gardera sa différence, mais une meilleure différence. Ce qui fait que chacun de leur côté, en améliorant leurs différences, ils arriveront à être les mêmes. Mais sans avoir essayé de devenir différents, tout simplement en améliorant la note. Ce qui fait que tu partes du blanc ou que tu partes du noir, étant donné que c'est la même énergie, à partir du moment où tu lèves la note, tu deviens l'énergie du milieu. Tu rejoins le centre qui est le neutre. En politique, c'est la même chose. Mais disons que tout le bon de cette transformation ne sera pas visible, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pour le futur. On pourra croire, mais ce sera un mirage. On pourra croire que les choses changent, qu'elles s'améliorent, que l'économie s'améliore, que l'ouverture se fait. Et à l'Ouest aussi, on pourra le juger comme étant plus souple, plus social. Mais ce sont là des mouvements d'apparence. Ce sont là les premiers mouvements de la vague. Le véritable changement, c'est pour plus tard, lorsque l'on sera vraiment dans l'ère du Verseau, et où véritablement l'homme, chaque homme, où qu'il soit sur la planète, sera beaucoup plus individualisé, un peu plus mental et en même temps un peu plus intuitif. Il sera par là même plus capable de se prendre en charge et d'aider le président à gérer le pays, au lieu d'être tout simplement une série de wagons difficiles à tirer, à parquer à droite, à parquer à gauche, et à prévoir pour la gauche tel plan ou pour la droite tel plan. Il n'y a pas 36 façons de cultiver une carotte. Il n'y a pas 36 façons de fabriquer une marmite. Il faut se mettre au travail et que chacun gagne l'argent qu'il lui faut pour vivre. Donc imaginez que l'on puisse cultiver une carotte de telle manière ou de telle autre manière, c'est une erreur. Et cette erreur est commise en politique tout simplement parce que l'homme est dans le rêve. Il s'imagine que le pouvoir passe par là, que le pouvoir passe par son style. Mais je ne veux pas reprocher toutes ces choses. Nous savons très bien que la race va passer par des rêves inévitables. Je ne veux donc pas perdre de temps à critiquer ces rêves, mais je veux l'employer à vous faire sortir du rêve qui est trop vieux pour vous faire entrer dans un rêve qui est l'avenir. Et quand vous y serez, nous serons de nouveau là pour vous faire sortir de ce rêve qui était votre avenir hier, mais qui est votre passé aujourd'hui, pour pouvoir vous entraîner dans un autre rêve, plus loin, qui représente un autre avenir, mais qui n'est toujours pas la vérité. Et lorsque vous aurez cessé tous les rêves, automatiquement, vous comprendrez non seulement qui nous sommes, mais aussi qui vous êtes. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans vous rassurer à propos de Dieu. Je vous ai un petit peu bousculé en vous disant « il n'existe pas ». Alors je voudrais simplement ajouter que si pour moi Dieu n'existe pas, la plus grande présence de Dieu pour moi, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et si tu acceptes tout cet amour qui vient de nous et de tous les guides, de toutes les entités que tu puisses imaginer dans l'univers, accepte que cet amour soit le Dieu que tu aimes prier. Accepte que cet amour soit le Dieu que tu aimes aimer. Donc il y a le Dieu de vérité qui est un Dieu absolu, qui n'existe pas dehors, qui n'existe qu'en toi, et que tu ne peux pas prier, que tu ne peux que réveiller. Et il existe un Dieu, qui est un Dieu de circonstances, et qui est la force d'amour que composent tous les initiés avancés, tous les maîtres avancés, tous les anges, tous les archanges, tous les rois des différents mondes. Et cet amour-là est une force gigantesque. Et tu peux l'appeler comme étant Dieu. Mais il faut savoir que ce n'est pas le Dieu de vérité. C'est le Dieu d'amour que composent tous ces êtres. S'il te plaît de prier, ce Dieu-là, tu peux le prier. Il pourra t'entendre. Et selon ton karma, selon tes vibrations, il pourra exaucer ta prière ou pas. Mais ce n'est pas le Dieu de vérité. C'est quand même un Dieu d'immense lumière, c'est certain. Mais ce n'est pas celui qui est en toi. Si tu veux connaître celui qui est en toi, alors il faut que tu abandonnes toutes les projections, tous les rêves, toutes les divinisations, et que tu te places dans le silence. Tout simplement. Alors tu peux me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, se placer dans le silence ? Elle est bien belle ta théorie, mais comment on y va dans le silence? On y va de façon très simple. Mais pour toi, ce sera assez compliqué. Il faudrait que tu puisses dévisser la tête, la prendre sous le bras et la jeter dans un grand brasier. Car vois-tu, tout le rêve est dans ta tête. Tout le rêve est dans le mental. Qui pense, qui projette, qui imagine, qui suppose, qui dit que, qui dit pas. Alors, tu dévisses la tête, tu la fais dormir sur l'oreiller, tandis que tu sors ton cœur. Et à l'intérieur de celui-là, tu vas rencontrer la vérité dont je te parle. Et en l'ayant rencontrée, tu...